Allez-y. Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On parle pas à la bouche pleine, même de croissant.
On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Kruger.
Sortez.
Garçon, s'il vous plaît. Je voudrais un café crème avec 2 croissants.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, c'est l'heure d'un petit déjeuner tardif et nous sommes à table avec Philippe Gosselin. Philippe Gosselin, vous êtes boulanger.
Oui.
Et vous êtes pâtissier aussi.
Également.
Hein, vous êtes, alors, il paraît qu'on n'a plus le droit de le dire, mais je sais que vous continuez à livrer la présidence de la République en baguette de pain.
Bien sûr.
Oui.
Tout à fait. On fournit l'Élysée en midi-viennoiserie également depuis 1996.
Philippe Gosselin, j'aimerais qu'on parle d'un objet particulier qui est le croissant. Et qui est le croissant ordinaire. Quand on dit aujourd'hui à un pâtissier. J'aimerais un croissant ordinaire, il vous dit, il n'y en a pas, ça n'existe plus. Et dans les boulangeries, le matin, il faut se lever tôt pour avoir un croissant ordinaire. Pourquoi c'est si difficile d'avoir un croissant ordinaire?
C'est comme des pièces qu'on fait maintenant en rareté. Donc à partir du moment où c'est fait en rareté, on a tendance à ne pas les faire ou les mettre de côté. Et c'est-à-dire qu'en fin de compte, là où maintenant on va faire une vingtaine de plaques, on appelle ça où il y a 18 croissants par plaque de au beurre, on va en faire 2, 3 d'ordinaire. Donc c'est qu'en fin de compte, on a beaucoup moins de débit. Chaque boulanger a beaucoup moins de débit.
Est-ce qu'on fabrique encore des croissants ou est-ce que tous les boulangers font surgeler leurs croissants?
Alors, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une légende qui dit que 80% des boulangers fabriquent plus leurs croissants, les achètent tout près. Moi, je vous dis, c'est une légende parce que...
Moi, je suis allé voir chez vous, hein, donc
je peux témoigner. Je peux vous dire, à l'heure d'aujourd'hui, j'en connais bien sûr qui achètent des croissants industriels surgelés, mais c'est loin, loin d'être la majorité. En fin de compte, certains vont prendre un produit ou 2 produits. Ils rentrent dans les stats, dans les statistiques des 80%, mais c'est loin d'être la majorité qui font plus leur croissant. Il y en a quand même beaucoup qui font leur croissant encore. Il y a une chose qui est certaine, si les boulangers font plus leur croissant, au départ, c'est parce que on n'a pas d'ouvriers qui savent faire des croissants.
La personne qui, dans la boulangerie, fabrique le croissant, c'est un boulanger ou un pâtissier?
Alors, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu des deux. Donc c'est déjà un métier qui est un peu compliqué, mais c'est un tourrier.
C'est amusant parce que vous faites le geste du tourrier en disant...
Ah ben voilà, c'est l'entre-deux.
Voilà.
C'est l'entre-deux.
Alors, si l'on...
Ou dans le temps, on appelait ça aussi un viennois.
Parce qu'il faisait des viennoiseries.
Il venait des viennoiseries.
Viennoiseries, parce que à l'origine, le croissant, c'est viennois? Ou c'est une légende?
En fait, c'est un pain sucré, quoi. Comme un pain au lait ou un pain sucré qu'on met en forme de croissant de lune.
Croissant de lune, alors ça c'est un hommage, comme le veut la légende aussi, à la victoire des Viennois sur les Ottomans.
Alors il y a plusieurs sortes, il y a aussi l'alliance de François Ier avec les Turcs, etc. Donc en fin de compte, il y a plusieurs petites légendes qui sont toutes aussi plus sympathiques les uns les autres, mais qui nous a donné de noblesse avec nos viennoiseries en tant que boulanger-pâtissier. Et donc rien que pour ça, on peut les remercier de faire rêver un petit peu là-dessus.
Alors, Philippe Gosselin, nous sommes dans votre laboratoire.
Oui.
J'aimerais que vous nous disiez comment on fabrique ces croissants ordinaires, et puis on fera la différence avec les croissants au beurre.
Alors, en fin de compte, déjà, on va commencer par fabriquer une pâte, pétrir une pâte, bien sûr, assez ferme, pas trop dure comme du feuilletage, mais assez ferme, sans trop la pétrir, avec de la farine, de l'eau, 55 à 60% d'eau, hein, au départ, avec du sucre. Le sucre représente en général 10%, le sel un peu moins, on va dire 2%. Là aussi, on essaye de diminuer parce que la communauté européenne nous a demandé pour le bien de diminuer le sel dans le pain, comme dans nos viennoiseries et autres. On essaye de diminuer, On arrive à 18 grammes au kilo de farine actuellement, aussi bien dans le pain que dans les viennoiseries, bien entendu. Mais par contre, le sel, c'est quand même un élément qui donne le goût. Je ne vais pas le vendre aujourd'hui parce que je vais me faire taper sur les doigts.
Mais non, 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 allez-y.
Mais c'est un petit peu ce qui différencie les fromages, les jambons, les différents produits. Le sel a quand même une part très, très importante. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que les jeunes, avant même de commencer à manger, ils vont saler. Ils ne vont pas goûter avant, ils vont mettre d'abord du sel, ils vont manger ensuite. Bon, ça, c'est une chose, c'est normal, ça proscrit. Je le proscris chez moi avec mes enfants. Mais par contre, voilà, en fait, ça représente à peu près, pour revenir, à peu près 1,5, 1,8 du programme de farine qu'on met pour le sel.
On ne rajoute pas de levure.
En fait, c'est une pâte levée où ensuite on la travaille en feuilleté.
Donc, pour ce faire, on la fait reposer un peu.
On appelle ça la faire se détendre.
Dans un réfrigérateur
au réfrigérateur, bien entendu.
Pendant combien de temps?
6 heures, 7 heures, c'est bien. Il ne faut pas indéfiniment, mais entre deux, il faut la retourner pour remettre le froid dans le milieu. De façon à ce que la levure n'altère pas l'intérieur de la pâte.
Est-ce que vous connaissez, Philippe Gosselin, la recette de la pâte feuilletée de Fernand Reynaud?
Non, absolument pas. Je connais les petits pains au chocolat de Jodassin.
Fernand, comment réussissez-vous votre pâte feuilletée? Je m'en vais donner le truc. Il faut faire la pâte auvergnate. C'est simple, il ne faut pas travailler votre pâte. Il ne faut pas la travailler. Il faut la plier. C'est une nuance, n'est-ce pas? Vous avez votre pâte que vous avez faite, n'est-ce pas? Un coup de rouleau, du beurre dessus, je plie. Un autre coup de rouleau, du beurre dessus, je plie. Il ne faut pas la travailler. Si vous la travaillez, vous aurez des grumelons. Faut pas. Faut la plier. Moi, je plie ma pâte à l'auvergnate. Un peu de beurre dessus, je plie. Et je te plie, et je te replie, et je te plie. Et bon. Alors, quand c'est bien plié, vous laissez reposer dehors toute la nuit. Le lendemain, vous mettez au four pendant une bonne demi-heure une cuisson douce, mais tout en étant assez chaude, n'est-ce pas? Faut chercher la chaleur pâtissière. Alors, bon, vous sortez du four au bout d'une demi-heure, et là, vous avez un cataplasme.
Alors, Philippe Gosselin, cette recette de Fernand Reynaud, de la pâte feuilletée?
Elle reste particulière à Fernand Reynaud, parce qu'il parle de grumeaux, on ne peut pas en avoir de grumeaux dans une pâte feuilletée, logiquement. Mais c'est pas comme une pâte à crêpes.
Alors, comment faites-vous votre pâte à croissant?
Une fois qu'elle a reposé à peu près pendant 6 heures, 7 heures au frais, on l'étale comme une feuille de papier.
Ça, vous faites ça au rouleau ou au laminoir?
On fait ça au rouleau. Hein. Donc, on l'étale en forme d'un carré. Et ensuite, on prend du beurre. Le beurre, à peu près 250 grammes de beurre pour 1 kilo de pâte.
Ça, c'est votre recette.
Voilà, c'est une recette. Voilà.
Non, non, mais il y a des gens qui mettent beaucoup plus.
On peut mettre de 100 à 250 grammes. 250 grammes, ça fait un peu riche, mais on peut être à 220 grammes, on est bien aussi. Donc, en fin de compte, on étale notre pâte au départ comme une feuille de papier de 3 cm d'épaisseur. Enfin, ça dépend de la quantité de pâte. En travers, on dépose notre beurre qui a été étalé également en carré, mais en travers du pâton de pâte, de façon à refermer comme une enveloppe. On a l'impression que la lettre qu'on vient d'écrire, c'est le beurre, et le papier qui va servir d'enveloppe, c'est la pâte. Et en fin de compte, la recette jusqu'alors est complètement identique, aussi bien pour le beurre que pour le croissant ordinaire, que le croissant au beurre. Alors donc, pour un croissant ordinaire, ensuite, nous allons l'allonger, on appelle ça au laminoir ou au rouleau.
Le laminoir, c'est une presse qui...
Voilà, c'est deux rouleaux qui tournent dans un sens identique, de façon à presser le pâton. Et ensuite, nous allons plier ce pâton, qui va être rectangulaire assez long. Nous allons plier en trois parties une première fois. On laisse, en fait, à nouveau se détendre. Et ensuite, on le réétale, mais à l'envers, dans l'autre sens. Et là, on va le replier, mais au lieu de trois, on va le plier en quatre. On appelle ça un tour. Le croissant au beurre, on va faire trois tours identiques. Et un croissant ordinaire, on va faire un tour... Et un tour, on appelle ça portefeuille ou un tour et demi, comme on veut. C'est-à-dire qu'on replie les deux extrémités sur la moitié et on replie encore une fois les deux ensemble.
C'est un petit peu comme si on pliait des serviettes ou des draps de façon...
Tout à fait.
Mais alors,
C'est pour ça qu'à la maison, je plie très bien les draps. Mais pas trop fort.
Pourquoi cette différence de pliage, de tour entre l'ordinaire et le croissant au beurre?
Parce que la matière grasse, la texture de la margarine va moins supporter la multiplicité de feuilletés. Comme du feuilletage, la pâte feuilletée, on va aller jusqu'à 6 tours.
Et ça c'est pour la galette des rois par exemple?
Voilà, oui. Exactement. Par contre, si on veut faire les charcutiers, quand ils faisaient des bouchées à la reine pour faire quelque chose de très développé, vont aller sur 5 tours. Donc on a quelque chose d'un feuilletage qui se développe énormément, mais qui à côté de ça va avoir le défaut d'être moins régulier. Plus on l'écrase, plus il va être régulier. Mais par contre, plus il a de feuilles, bien sûr.
C'est-à-dire que ces feuilles,
et c'est pareil pour le croissant ordinaire.
Quand on coupe le croissant en deux, hein, sur le...
Voilà, en fait, on a ces différentes couches qui a pâte, beurre, pâte, beurre, pâte, beurre, en fin de compte. C'est pour ça qu'on a au moins 1000 feuilles, si ce n'est pas plus.
Quand vous les pliez, alors j'ai vu qu'il y avait un petit geste particulier pour que le croissant gonfle sur son ventre. Vous donnez un petit coup de couteau, enfin de...
Non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, au moment où on va, une fois qu'on aura allongé notre pâton d'une épaisseur d'environ, on va dire, un 2/3 de centimètre, hein, pas plus, hein, d'épaisseur, parce qu'il faut quand même faut pas trop écraser les différentes couches de feuilleté. Et donc, en fin de compte, on va couper des bandes et on va...
Comme des parts de brie, un peu.
Voilà, on va couper des bandes à la base, en longueur, et ensuite, on va faire des triangles. Et sur la partie qui est la moins large de notre triangle, on va mettre un petit coup de couteau pour aider le croissant à s'étaler un petit peu quand on va le rouler avec les mains. Voilà.
Donc, quand vous roulez votre croissant, vous pouvez faire le geste, là, de rouler le croissant?
Là, en fait, on part les mains comme si on a les mains l'une sur l'autre, et ensuite, on tire vers l'extérieur les deux mains, en avançant vers nous ou en remontant. Il y a les deux. Soi-disant, le boulanger va de haut en bas et le pâtissier va de bas en haut. Donc là, soit on fait comme ça, soit on fait comme ça. Ça c'est...
Et alors, le tourrier, qu'est-ce qu'il fait?
Ben, le tourrier, ça dépend s'il est plus une formation de boulanger ou de pâtissier. Mais il ne peut pas aller dans le milieu.
Et alors, pour la forme du croissant ordinaire...
Donc ensuite, pour la forme du croissant, on prend le croissant, en fait, c'est comme si on mettait le croissant, le creux de la main vers le haut, en mettant le croissant dedans. Et là, en fait, on met les pouces comme ça à l'intérieur, et on le tourne comme ça, de façon...
Mais il faut pas non plus... Et on lui donne la forme du croissant.
Et on lui donne la forme du croissant. Mais il faut pas non plus que, on va dire, les bras du croissant soient complètement recroquillés sur eux-mêmes. Ouais. En fait, à la base, les croissants feuilletés, au beurre, étaient tous de cette forme-là, en croissant. Sans quoi, ça n'avait pas d'intérêt de l'appeler autrement. Avec le temps, ils ont mis, ça date de assez longtemps, parce que c'est date de Napoléon III, la margarine, qui avait mis en scène une expérience là-dessus. Ils ont décidé de faire la margarine pour que ce soit un produit d'une qualité à peu près égale au beurre, mais qui était beaucoup moins cher. Et en fait, les boulangers qui avaient du mal à se produire du beurre, ils se sont mis à faire des croissants ordinaires, mais bien sûr, ils n'étaient pas fiers de mettre un produit de moindre qualité. La margarine, ils l'ont mis, mais ils l'ont gardé la forme du croissant normal, pour faire voir que ce n'était pas un croissant au beurre, ils l'ont laissé comme ça. Ensuite, tout le monde s'est mis à faire du croissant au beurre. Du temps de moi, quand je travaillais chez mon papa, dans les années 78, en fait, on faisait quasiment plus, si ce n'est autant, de croissants ordinaires que de croissants au beurre. On utilisait beaucoup de margarine. Et maintenant, en fin de compte, on utilise ce qu'ils utilisaient en un mois. Nous, on l'utilise en un an, quoi, de margarine en produit. C'est impressionnant. Et en fin de compte, le boulanger qui se sont mis à refaire du croissant au beurre, bah, pour se distinguer, on dit on va faire des croissants longs. Et en fin de compte, c'est le croissant au beurre qui s'est caronné sa forme.
On va aller à Capri, c'est Avanti, c'est le Viennois Billy Wilder.
Sur France Culture, on ne parle pas la bouche pleine avec Alain Krüger.
On a écrasé notre pâte, on a posé sur les plaques les petits croissants qui vont.
On a roulé nos croissants.
On a roulé nos croissants.
Donc en fait, on l'a pétri, On l'a ensuite laissé se détendre, la pâte. On l'a beurré. Ensuite, on l'a touré. Ensuite, on l'a allongé. On l'a détaillé, façonné. Et maintenant, il nous reste le... on va la dorer avec un pinceau et de l'œuf. En fin de compte, c'est pour donner une couleur au croissant, déjà qu'il soit brillant, pour qu'il ait une belle couleur caramel, on va le cuire un peu trop longtemps. Donc, en fin de compte, l'œuf va l'aider à caraméliser un petit peu plus rapidement.
Mais Philippe Gosselin, quand on vous voit travailler comme ça un croissant, c'est beaucoup de travail pour un produit qui est vendu à un prix assez bas. Ça vaut quoi?
C'est vrai. En fait, c'est un croissant, ça vaut 1 euro, 1,20 €. Voilà, ça, je veux pas les tarifs en tête. Quand on voit la manipulation qu'on a pour faire un croissant, on va d'abord le pétrir la veille. Il faut qu'on les travaille la nuit. Et en fin de compte, vous avez un café, ça coûte 1,20 € aussi. En fin de compte, c'est une manœuvre de 10 secondes. Évidemment, je vais pas me faire des copains. mais voilà, c'est un métier. C'est un métier, c'est la passion aussi de prendre une matière et de la transformer. Bon, quand on fait du pain, on entend la pâte claquer dans le pétrin, on dit stop, on arrête le pétrin. C'est au bruit, c'est à l'oreille. Il y a beaucoup qui aiment ça. Et comme notamment Jean-Louis Etienne parlait toujours de l'intelligence des mains. Et ça, quand on fait nos croissants, c'est important. Donc c'est pour ça qu'effectivement, maintenant, on entend que beaucoup de boulangers font leurs croissants, achètent leurs croissants surgelés. Il y en a, mais c'est quand même pas non plus la majorité. Moi, je peux vous dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, Paris, c'est pas la majorité.
Et vous pouvez les distinguer
Malheureusement, les industriels font des qualités assez intéressantes. Moi, quand on voit qu'ils ressemblent tous, déjà, les croissants en vitrine, on peut avoir déjà un doute. Quand on voit que les croissants ressemblent, on peut déjà avoir un doute, c'est clair. Mais voilà, les croissants ne ressemblent pas forcément systématiquement.
Les croissants industriels, ils sont façonnés à la machine ?
Et tout à fait, pour avoir le débit bien sûr, et pour avoir le débit, la rentabilité, et pour gagner sur le coût bien entendu, bien sûr, ils ont des machines. On va sortir, à façonner des croissants. Un pâton de croissants, de 80 croissants, il va nous falloir 20 minutes. Ils vont faire 3000 croissants à la demi-heure. Hein. C'est... on peut pas jouer. En plus, on ne peut pas comparer et jouer sur ce genre de dossier-là. On est pas assez fort. Dans artisan, il y a artiste. L'artiste, c'est celui qui crée. Et ensuite, il y a l'industriel qui reprend la création, mais à grande échelle. Voilà. Moi, dans artisan, il y a artiste, et je me considère pas comme un artiste, mais il y a l'idée.
Il y a l'idée, puis il y a cette intelligence de la main dont on parlait. Mais est-ce que je peux quand même avoir deux croissants?
Je viens de vous dire que nous n'en avions plus de croissants. Les brioches, oui, mais les croissants, non. C'est les croissants. Plus de croissants, c'est terminé, les croissants. Faut pas vous énerver pour ça. Mais ça fait rien. Écoutez, je vous félicite de voir votre conscience professionnelle, mais je prendrai autre chose. N'importe quoi, ce que vous voulez. Je ne suis pas le client embêtant, moi. Je prendrai ce que vous voulez, je ne peux pas mieux vous dire. du thé, du chocolat au lait. Vous avez du thé? Moi, une petite tasse de thé, alors. Avec de croissant. Mais dites donc. Vous en avez pour longtemps, embêté ce garçon, vous là. Ça fait 10 minutes que je vous observe depuis le début. Qu'est-ce qui vous prend d'embêter un garçon pas dans son travail, hein? Je vous connais pas, moi. Je suis client. J'ai le droit de commander ce que je veux, mais je m'occupe pas de ce que vous commandez, vous. Un client, il a... Ah, vous êtes client, moi aussi je suis client. Taisez-vous, monsieur. Vous devriez avoir honte d'embêter un garçon pendant son travail. Taisez-vous. Laissez-moi vous dire d'abord, garçon, que vous avez de la patience. Parce que moi, garçon, si j'avais été à votre place, il y a longtemps que j'aurais pris les deux croissants, je vous les aurais foutus sur la gueule.
Non, mais on ne s'énerve pas, on est très, très calme. Idéalement, il faut le manger comment, le croissant? Il faut le manger chaud ou il faut le manger froid?
Chaud, c'est super bon, mais c'est beaucoup moins digeste. Bon, Moi, quand je mange un croissant, je rajoute du beurre. Du beurre et du miel.
Et vous rajoutez du beurre sur le croissant ordinaire aussi?
Ah bah oui. Mais, ah oui, mais ça, c'est de la gourmandise. Mais vous savez, les gens qui font trop de régime, ils arrivent à un moment où est le plaisir de déglutir quelque chose, de se faire plaisir en bouche. On n'est pas obligé de se faire plaisir que par les yeux en regardant un film ou un tableau. On n'est pas obligé de se faire plaisir que en écoutant de la musique ou de la grande musique ou autre, ou en écoutant un bel orateur. On peut aussi se faire plaisir au palais, à la bouche. Et je pense que ça, c'est aussi un véritable plaisir.
Mais Philippe Gosselin, la différence de pâte entre le croissant, entre le palmier, entre le pain au chocolat et entre les autres viennoiseries... Non, la brioche, la pâte n'est pas du tout la même, mais
absolument.
Mais pour le pain au chocolat et pour le croissant.
En fin de compte, en fait, on fait plusieurs avec la pâte à croissant par elle-même. On fait donc les croissants ordinaires, croissants au beurre. On fait les pains au chocolat. On fait les oranais avec un abricot. On peut faire les.
Alors l'oranais, vous pouvez faire le pli d'ailleurs parce que.
Alors l'oranais, en fin de compte, c'est un carré. Et en fin de compte, on met un peu de crème pâtissière en travers. Hein, on met deux oreillons d'abricot. De rang. Et en fait, on replie les deux autres coins vers le centre. Et donc, en fin de compte, ce qui fait comme un œuf, enfin, comme deux œufs sur le plat.
Deux œufs plat.
Mais avec de la crème pâtissière en dessous.
Voilà. Oui, c'est plus léger.
Voilà.
Ouais. Et le pain au chocolat?
Le pain au chocolat, alors avant, en fait, on le faisait, en fin de compte, c'est un rectangle qui fait à peu près le même poids que le croissant, parce qu'en général, un croissant fait environ 60 à 65 grammes cuit. Parce que cru, on est sur ça peur à peu près 10 ou 15 grammes en cuisson. Parce qu'en fin de compte, c'est l'humidité qui est dans la pâte, qui en fin de compte s'évapore au four, bien entendu, ce qui évite que ça se dessèche. Et en fin de compte, donc le pain au chocolat, en fait, c'est un petit rectangle qu'on taille de la longueur de nos bâtons de chocolat et on roule. Avant, on mettait la plupart du temps, les boulangers mettaient un bâton de chocolat. Maintenant, dans la société de croissance, on en met deux. En fait, on fait aussi les pains au raisin aussi. Alors, il y a les pains au raisin, il y a deux écoles. Il y a ceux qui font des pains au raisin avec une pâte à brioche. Et il y a comme nous, on fait une pâte à croissant. On allonge notre croissant et on fait notre pain au raisin dedans. Dans certaines régions, on appelle ça des schnecks. Parce que le schneck est un escargot. Donc, en fait, on étale notre pâton, on met la crème pâtissière, nos raisins, et on roule vers nous. Et ensuite, on coupe les boudins. Voilà, c'est le pain au raisin.
Et le palmier?
Alors, le palmier, c'est un feuilletage. C'est un feuilletage. Alors là, par exemple, on reprend, en fin de compte, arrivé au cinquième tour, parce que je vous dis, on faisait six tours, on fait le même travail, en fait, sauf que dans la pâte, il n'y a pas de levure. Et en fait, au bout du cinquième tour, au lieu de mettre de la farine, pour pas que ça colle, on met du sucre. Sucre semoule, éventuellement, parce que le cristal va faire trop, ça va casser trop les corps. Et ensuite, on le plie d'une certaine façon. Qui est, en fin de compte, on va faire le premier morceau de chaque côté, on va le plier d'à peu près 8 cm, et en fait, on le rabat jusqu'à temps qu'on arrive au centre dans la même taille. Et là, ensuite, on coupe des petites bandes, qu'on met la tranche sur le dessus, comme ça, au four.
Et
on va
va gonfler.
Un palmier qui fait à peu près, on va dire, 5 cm de largeur, et qui, en fin de compte, si le feuilletage est bien réussi, et notre pliage est bien réussi, on va arriver à peu près à 12 à 15 cm de largeur.
Le croissant, après les expériences ottomanes, viennoises, c'est devenu un symbole de Paris, hein, le café,
surtout, bien
le café
sûr,
croissant.
On a des photos de Magot avec des croissants sur les petits guéridons qui sont très symboliques. Mais c'est le symbole du petit déjeuner à Paris.
Mais le petit déjeuner à Marseille, si on écoute le déjeuner de Pagnol, par exemple, vous pensez qu'il y a des croissants dedans?
Je sais pas.
Tu dois lire un livre qui te fatigue, toi, hein? J'ai voulu le réveiller, seulement tu as fermé la porte à clé.
Oui, je viens de me l'apercevoir. J'avais dû tourner la clé machinalement.
Voilà, machinalement, oui. Tiens, prends le café. Les croissants sont chauds, on va déjeuner. Oh, Benny, on dirait que tu perds ton pantalon.
J'ai peut-être maigri. Ah,
tu lis trop. Si tu continues à lire comme ça, tu vas devenir maigre comme un stockfish, hein? Allez, assieds-toi. Mais dis donc, Tu as bon appétit, hein? Ah, sacrément,
alors, vous avez pu noter que Rému non seulement parle la bouche pleine, mais fait l'apologie de Stockfish, et que Pierre Fresnay a un accent marseillais quand même moins au point que celui de Rému. Et alors, est-ce qu'on va continuer à pouvoir manger des croissants ordinaires ou ça va être... impossible, parce que aujourd'hui la matière première, enfin la margarine, ça coûte à peu près autant.
Bah, la margarine aujourd'hui est presque, alors ce qui est déjà une hérésie, parce qu'en fin de compte la margarine vaut aussi cher que le beurre, mais la margarine a une TVA à 20%, que le beurre a une TVA à 5,5%. Chercher l'erreur, je ne comprends pas.
Et alors, les matières grasses végétales type oméga 3, là, il n'y a pas des encouragements du ministère de l'écologie?
Écoutez, non, mais tout simplement parce qu'en fin de compte, déjà, si
on, de la santé.
On est obligé de travailler, ah oui, mais la santé en fait, mais on est obligé de travailler avec toutes les sortes qui sortent, les oméga 3, c'est des beurres qui sont en fait faits pour tartiner. Est-ce qu'ils sont bons à la cuisson? J'en sais rien. On peut pas savoir, on peut pas prendre le risque.
Il y a des boulangers qui font des croissants ordinaires, enfin des croissants oméga 3. Ils disent pas ordinaires.
Mais en fait, c'est encore un prix, voilà. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, en fin de compte, quand on fabrique nos croissants et qu'on a 90% de nos croissants qui sont au beurre, si on refait encore sur les 10-5% qui restent, on refait encore une quantité en oméga 3 et tout. Bon, maintenant, si jamais on était il y avait une demande, voilà. Enfin, on nous a pas encore demandé le croissant au beurre sans gluten, et actuellement c'est un grand problème.
Mais c'est possible?
Absolument pas. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une grande fierté. Les gens sont tous assez fiers de manger du sans gluten. Sincèrement, entre nous, c'est peut-être bien, mais moi je les plains.
Mais comment techniquement ça serait possible? Parce que il serait totalement avachi, ce croissant.
De toute façon, c'est complètement... Regarde, actuellement, si on fait du pain sans gluten, on est obligé de le faire dans des moules. Mmh. C'est-à-dire, ça n'a aucun intérêt, ça ressemble à rien. C'est même pas beau, je veux dire. On est fiers de se promener avec son pain, avec son paquet de croissants
dans la
rue.
Et sa baguette.
On est fiers de se promener.
Et son béret.
Et bon, tandis que de se promener avec son pain en cube dans un plastique... Moi, personnellement, voilà. Moi, quand je vais au marché, on va prendre des croissants. Enfin, quand je suis en vacances, on va prendre des croissants, on va prendre une baguette. On vient avec notre baguette, on mange un quignon de baguette, on mange notre croissant. Et bon, un bout de pain carré, on va pas l'entamer comme on entame le bout d'une baguette, quoi, oui,
le crouton d'une baguette. Oui. Et alors, le croissant, vous commencez par quoi?
Alors, on a plusieurs façons de le faire. Logiquement, en fin de compte, on commence comme un repas. Il a une forme un peu comme une carotte de tabac, quand il est au beurre, ouais, pareil. On va commencer par le petit bout, comme une entrée. Mmh. On arrive au plat de résistance, au corps, et on finit par le dessert.
C'est là où vous rajoutez du beurre, c'est au milieu, c'est ça, oui.
C'est au milieu, on est dans le plat de résistance.
Oui.
Et après, on arrive sur la fin, qui est en fin de compte la fin de mise en bouche. Ouais.
Et les croissants fourrés?
C'est bon aussi. Quand ils ne le sont pas, on le cherche. C'est là. L'avantage du croissant fourré, c'est pour faire marcher notre imagination. Dire que les gens, et nombreux gens qui ne savent pas faire de croissant, ont quand même le choix de faire marcher leur imagination pour les garnir à leur goût et à leur saveur. Dire, mettre de la confiture, du beurre, du chocolat, ce qu'ils veulent dedans. Et ça, c'est intéressant. Et les quantités qu'ils veulent.
Faites attention, vous, hein. 3, 4. Plié, tendu la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère. Avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Cédric Chatelus et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission aussi longtemps que vous le pouvez d'ailleurs, c'est-à-dire quasiment pour presque l'éternité. Et sur le site de France Culture, vous pouvez podcaster cette émission et dans quelques instants écouter le journal.